Voyager à travers le temps et aborder l'histoire de la Côte d'Ivoire, les rapports entre les peuples, les espaces culturels et traditionnels, les relations du pays avec les peuples d'ici et d'ailleurs. Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Kofi Ebois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. Histoire d'ici.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous recevons en seconde partie le docteur Aymon Ferdinand. Docteur Aymon Ferdinand enseigne à l'université Félix Houphouët Boigny. Docteur, nous sommes très heureux de vous rencontrer pour cette deuxième partie. Docteur, on a promis aux auditeurs qu'on allait parler aujourd'hui de la fête des générations à Bonois. Mais avant ça, l'histoire nous recommande de dire quelque chose de très 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 important. Mettre l'accent sur le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est un seul peuple, peuple unique. En tant qu'historien, quand vous allez dire, les gens vont comprendre le sens de ce que je suis en train d'avancer. Nous appartenons à un seul pays, la Côte d'Ivoire, et nous sommes venus de différents horizons, et aujourd'hui nous formons la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce regroupement d'Ivoiriens, en parlant de votre histoire, l'histoire des Aborés de Bonois qui sont venus, qui ont rencontré des gens un peu partout, qui ont rencontré les Aguas, qui ont rencontré les Otilés, qui ont rencontré les Agnis. Aujourd'hui, la ville de Bonois, on peut dire qu'il y a des Agnis même qui sont là complètement, ils sont nés là, ils ont grandi là, il y a même des Aguas et qui sont à Bonois. Alors, docteur, dites-nous quelque chose.
Merci bien, monsieur Jules Kofi Ebois, pour cette opportunité que vous nous redonnez. Et effectivement, l'histoire de la Côte d'Ivoire est très riche, comme on le dit. De façon générale, le territoire ivoirien était occupé depuis l'époque préhistorique, parce que les premières traces ont été découvertes jusqu'à 120 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ce qui permet de dire que le territoire ivoirien avait déjà des hommes qui y habitaient. Mais à partir du 11e siècle, on voit qu'il y a tout un ensemble de populations qui commencent à redescendre vers la zone forestière pour trouver des zones de refuge, puisqu'il y avait des crises en interne dans leur lieu d'habitation originel. Et ce mouvement de population qui a débuté au 11e siècle, pour certains, va continuer jusqu'au 19e siècle, où les derniers groupes de population ivoirienne vont s'installer avant que le colon, comme on dit le colonisateur, ne décrète le territoire qu'il occupe, colonie de Côte d'Ivoire, en 1893. Donc, à partir de 1893, quasiment tous les grands groupes ethniques que nous connaissons en Côte d'Ivoire sont déjà installés, ils occupent déjà leur espace qu'on connaît actuellement. Maintenant, revenons à l'histoire de Bonois, l'histoire des Aborés. On voit que, comme tous les autres peuples, ce peuple est le fruit d'un métissage. Il y a ce qu'on appelle le noyau fondateur, le grand noyau fondateur. Mais autour de ce noyau fondateur, se greffe tout un ensemble de populations qui sont venues de divers horizons. Comme nous l'avons dit, la famille, par exemple, la famille royale, qui est la famille Evivelé, qui a pour symbole naturel le chat. Parce que à Bonois, on voit sur le mur de la royauté le chien et le feu. Ceci a été une erreur, je peux le dire en tant qu'historien, de ceux qui ont conçu ces éléments. Parce que le chien et le feu sont les éléments du symbole de la famille Obun et Ivé. C'est la deuxième famille, la famille qui a su la régence en cas de vacance de pouvoir royal. C'est-à-dire c'est eux qui sont tenus de garder le trône jusqu'à ce que la famille royale trouve l'héritier qui doit occuper le siège. C'est cette famille qui a pour symbole le chien et le feu. Mais la famille royale a pour symbole l'eau, le chat, le riz et le corbeau. Voilà les éléments qui identifient la famille Evivelé dans ses origines. Et cette famille qui va conduire l'ensemble du peuple venu, quand ils arrivent dans la zone d'Adiaké de Boisseau, comme on l'avait dit, ils partent. Lorsque les Agnis rentrent, pénètrent la zone, dans leur mouvement, ils vont partir avec des peuples qui sont d'origine Agua. Donc, ces groupes vont intégrer l'ensemble des abourés qui étaient déjà présents, qui viendront. Et même dans nos recherches, on a trouvé que la famille Kouo, par exemple, a une origine même Aouine, c'est-à-dire ils proviennent de la zone qui a été fondée par le groupe de population qui vont fonder les différents groupes Agni. Donc, on retrouve même, anciennement même, ces peuples d'origine, si on veut dire d'origine Agni, dans l'ensemble qui vient. On va retrouver des peuples, des populations d'origine Agwa à l'intérieur. Et nous avons dit la famille Obun et Yvey de Bounoua, qui a pour symbole le chien et le feu, estime qu'ils viennent de l'île d'Asoko. Et c'est le même nom que porte la famille Obun et Yvey à Mossou, on les appelle les Asokopouins, c'est-à-dire les gens d'Asoko. Or, nous savons que Asoko a été l'île occupée par les Outilés, surtout la famille Boyené, famille qui a pour symbole le chien et le feu. Cette famille intègre les Abourés. L'un des démembrements va intégrer les Abourés qui vont descendre. Et on retrouve au sein même des Abourés encore des populations d'origine Mbato. Ceux-ci, on va les retrouver du côté de Mossou. Et même à Mossou encore, on va retrouver des populations d'origine Agni, les Asomolo, qui sont d'origine Agni. Et lorsqu'on prend un clan, le clan est formé de plusieurs matrilignages. Or, ces matrilignages peuvent avoir différentes origines. Et à Bounoua, on peut retrouver encore des familles d'origine Matier qui sont installées. Moi, par exemple, je suis le fruit d'un métissage. Mes grands-parents maternels, c'est-à-dire mon grand-père maternel, sa famille vient du pays Atier, précisément de Montezo. Ils arrivent en pays abouré dans la première moitié du 19e siècle. Donc ils intègrent le village d'Adiaou. Ils sont reçus par la famille Eivevle d'Adiaou. Donc ils forment un démembrement de cette famille. Ouais. Et c'est toutes ces populations qui ont des origines assez disparates. Même à Bounoua, on retrouve encore une autre famille même d'origine Eoutilé qu'on appelle les Adjekepoué. C'est-à-dire, leur nom Adjeke déjà montre leur provenance. C'est-à-dire Adjeke, qui va donner Adjaki. Voilà un peu l'ensemble des populations qui, avec des origines diverses, à un moment de l'histoire, se sont retrouvées et ont fondé l'ethnie Abouré et le peuple de Bounoua.
Docteur, pour ma connaissance, on a parlé de l'île de Asoko. Est-ce que c'est opposé à l'île Mounoubaha?
Oui, ils sont dans la même zone. En fait, la même zone, l'île de Mounoubaha, selon l'histoire des Éoutilés, c'est l'île où se trouvait la royauté Éoutilé, avant que celle-ci ne se déplace. Mais il faut dire que les îles étaient occupées par différentes familles. Or, la famille qui avait ses assises dans l'île Asoko, c'était la famille Boyené. Comme je le disais, la famille Boyené a eu ces démembrements qui vont se retrouver à Bounoua, vont donner les Obun Yvey, les Vatouan et les Mamlé. Voilà. Et ce même groupe, on retrouve les mêmes Mamlé à Mossou et les Aseke à Yaou. Et à Mossou, on trouve les Asokopoué. Les Asokopoué qui disent, eux véritablement disent que nous venons de l'île d'Asoko pour montrer véritablement leurs origines. Et on retrouve encore cette même famille à Ebra. Donc, vous voyez que dans l'ensemble, cette famille se sème dans tout l'ensemble abouré. Et ces origines, si vous pouvez prendre ces familles qui ont des origines très différentes, qui, à un moment de l'histoire, aux alentours du 18e siècle, se retrouvent et fondent les différentes localités abourées qui sont connues maintenant. Et une petite précision, on a la fâcheuse tendance à dire que le pays abouré se divise en deux grands pôles politiques. Le pôle politique de Bounoua et le pôle politique de Mossou. En réalité, les Abourés sont formés de 5 sous-groupes. Et leur constitution fait de telle sorte qu'ils sont des cités-états. Donc chaque roi, c'est-à-dire chaque chef porte le titre de roi. Et son étendue, l'étendue de sa domination politique reste dans les limites de sa localité. Donc, le roi de Mossou ne peut pas être supérieur au roi d'Ebra. Ils sont alignés sur le même pied d'égalité. Cela va de même pour le roi de Yaou qui a mis sur le même pied d'égalité que le roi de Bounoua et le roi d'Adiaou, puisque chacun est indépendant. Mais comme ils ont formé 5 sous-groupes, parce que ces 5 sous-groupes auront des noms différents, ceux d'Adiaou vont porter le nom d'Assoukou, ceux de Bounoua et Yves, ceux de Yaou Assibrokowé, ceux de Mossou vont porter toujours le nom E, et ceux de Bra vont porter le nom Oswan. Mais quand on remonte dans l'histoire, on voit que c'est deux grands sous-groupes qui vont se scinder en 5. Les deux grands sous-groupes sont les E et les Abou. Ils vont se scinder au final dans l'installation en 5 sous-groupes indépendants.
Et ces différents groupes, comme vous l'avez si bien dit, Abou et Ehe, ces groupes n'ont jamais eu de conflits internes.
Ces groupes, il y a eu carrément des conflits. C'est-à-dire, il y a des conflits. Il y a eu un conflit entre ceux de Bra et ceux de Mossou, parce que cela résulte d'un problème en interne, parce qu'il y avait eu un problème de succession au niveau de la royauté de Mossou. Et certains éléments de cette royauté se sont réfugiés dans le village des Bra. Et avec l'appui de ceux des Bra, ils ont voulu venir reprendre le trône à Mossou. Et cela a créé un conflit. Et ce conflit va dégénérer et s'ouvrir sur les éhoutiers de Vitré. Puisque les éhoutiers de Vitré, lorsqu'ils ont appris le décès des guerriers des Bra, ils vont vouloir aller porter leurs condoléances et tenter d'être médiateurs entre les deux sous-groupes abourés. Et leurs envoyés ont été pris à partie par les habitants des Bra. Donc, ce qui va créer encore des tensions entre maintenant ceux des Bra et ceux des Vitré. Et pour résolver toutes ces tensions entre ces trois groupes, ils vont décider de conclure un accord, cet accord qui va se baser sur un sacrifice humain pour dire que dorénavant, il n'y aura plus de conflit interne entre ces trois groupes. Et ils vont aller plus loin dans les accords. Dans les accords, ils vont estimer que les trois groupes se doivent maintenant assistance mutuelle. En cas de malheur, en cas d'élément heureux, ces trois groupes doivent s'assister. Ainsi, lorsqu'il y a l'intronisation d'un roi dans les trois éléments, les deux autres doivent aller les soutenir. Et lorsque les différentes générations, les classes d'âge font leur sortie chez un des peuples, les deux autres doivent envoyer des délégations pour participer à... Lorsqu'il y a l'effet des générations, les deux autres groupes doivent apporter assistance dans ce moment de joie au troisième groupe qui fête cette sortie des générations. Et on remonte encore au niveau de l'histoire, on voit qu'au 19e siècle, il y aura un conflit ouvert entre les abourés d'Adiaou et ceux de Yaou. Et cela est parti d'un malentendu entre pêcheurs sur la lagune. Parce que les abourés d'Adiaou avaient pour spécialité la pêche au crabe, voyez. Et lorsqu'ils vont à cette pêche, ils sculptent le fond de la lagune afin de trouver ce crustacé. Et ceux de Yaou, lorsqu'ils voient leur frère avoir cette attitude, ils se mettent à se moquer d'eux, en estimant que ça, ce n'est pas un truc de la pêche que vous faites. Et vous avez quoi à sculpter le fond de la lagune et vous cherchez quoi au fond de la lagune. Donc, par ricochet, en réponse, ceux de Adiaou ont dit, on cherche le bois qui sert à taper votre instrument de musique. Donc, pour les abourés de Yaou, c'est comme une offense, en fait, à un élément de leur tradition. Donc, il fallait laver cette offense. Et ils vont mener une opération. Mais dans cette opération, ils seront trahis par l'un de leurs qui va donner l'information aux abourés de Adiaou. Et ceux-ci se sont préparés et ont entendu leurs frères de Yaou. Et lorsque ceux-ci sont arrivés dans les rivages, ils sont rentrés dans la localité, ils ont été pris en embuscade. Et il y a eu plusieurs morts. Et depuis lors, il y a eu des tensions entre les deux groupes jusqu'à ce que on décide d'apaiser cette tension pour montrer que les deux groupes restent toujours des frères.
Les deux groupes restent toujours des frères. Nous avons fait ce tour-là pour conclure ainsi. La Côte d'Ivoire est ce pays qui doit représenter beaucoup pour les Ivoiriens et pour les Africains. Ces crises internes ont été opérées et tout de suite, tout est fini, tout est revenu au calme. En tant que historien, en tant que docteur, qu'est-ce que vous avez à dire concernant tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tout ce que nous vivons en ce moment? La Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été long un peu, j'ai dit la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Nous sommes tous venus d'horizons divers et nous nous retrouvons sur un territoire qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qui est notre bien commun. Qu'est-ce que vous pouvez dire encore pour que les gens comprennent mieux?
En fait, ce que nous pouvons dire, c'est que nous demandons surtout aux Ivoiriens de s'intéresser à leur histoire. Parce que dans leur histoire, il y a les mécanismes de résolution des crises. Lorsqu'il y a des crises qui interviennent entre différents groupes de population, il y a tout un mécanisme qui permet de résoudre ces crises. Certes, à partir de la fin du 19e siècle, nous avons déjà formé nos différents peuples qui sont là. Et à partir du 20e siècle, on commence à recevoir nos frères de la sous-région, qui sont les voltaïques, en ce temps ceux du Soudan français, qui est devenu le Mali actuel, ceux de la Guinée française, et ceux du Dahomey, qui viendront sur le territoire ivoirien. Mais si nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, nous ne connaissons pas notre histoire, nous n'arrivons pas à connaître nos origines, à voir comment on résout les crises en interne, à voir comment nos aïeux faisaient pour pouvoir mettre des conflits qui éclatent où il y a des sangs qui sont versés, mais on a des éléments très propices, très nets pour pouvoir les résoudre en moins de temps. On a laissé tous ces éléments et maintenant, bon, c'est la politique qui nous guide un peu plus, puisque les politiques ont les intérêts. Chacun vient, il gère ce qu'il peut gérer, il dirige comme il peut le faire. Mais nous, en tant que peuple, nous, on n'a qu'un seul territoire, un seul pays. C'est à nous, en interne, de s'asseoir et de résoudre les malentendus qui surgissent entre nous pour pouvoir avoir une vie paisible et ne pas attendre que le politique revienne résoudre ses problèmes, parce que le politique, lui, il a déjà ses visions. Certes, il y a les tribunaux et les éléments de l'administration territoriale qui sont là pour résoudre ces questions, amener à chacun à respecter les lois de la République. Mais nous-mêmes, en tant que peuple, on peut déjà revenir dans notre passé, s'appuyer sur les éléments de notre passé et pouvoir résoudre cette question avant que cela n'arrive à dégénérer.
Chaque Ivoirien doit connaître son histoire.
Chaque Ivoirien doit connaître son
histoire. L'histoire de son pays, la Côte d'Ivoire. Alors maintenant, nous allons parler de cette fête de génération à Bounoua.
Il faut dire que la fête des générations, comme dit l'historique, il faut remonter un peu dans la mise en place du peuple à Bouré. Puisque, je l'ai dit dans la première émission, que les classes d'âge ont été un héritage légué par les Éotirés aux Abourés. Ce sont les Éotirés qui ont formé les Abourés au système des classes d'âge. Et ce système va intégrer maintenant l'aspect politique de gestion des Abourés. Donc, à ce niveau, on se retrouve maintenant avec trois éléments de la politique, c'est-à-dire le roi, les notables et la génération. Le roi représente une famille, donc on lui donne le titre de façon à honorer sa famille. Les notables sont les représentants de chaque famille auprès du roi. Ce sont comme les premiers conseillers du roi. Donc, ils sont les yeux de chaque famille au sein de la royauté. Et les générations sont constituées comme, moi je le dis, en tant qu'historien, je prends un peu l'exemple, je dis non, équivaut à une assemblée, c'est-à-dire à un parlement, en fait. Ici, j'ai mis le système Abouré, j'ai comparé le système Abouré à une monarchie parlementaire, où le roi est là, à titre honorifique, il a certains pouvoirs qui lui sont attribués, mais ceux qui gèrent toutes les affaires courantes de la communauté, c'est la génération qui exerce le pouvoir. Et il faut dire que la génération en elle-même est formée de quatre classes d'âge. À l'origine, c'était trois classes d'âge. Et ces classes d'âge, on intègre ces classes d'âge à partir de certains âges bien précis. Sur les Abourés, c'est 18 ans d'intervalle entre les éléments d'une même génération. C'est-à-dire le plus âgé à 18 ans, le moins âgé au moins à quelques mois. Bon, lorsqu'une génération sort, déjà, les plus âgés tournent autour de plus de... Lorsque je prends mon cas, par exemple, nous autres, moi, j'appartiens à la génération Unoué d'Adiaou. Et lorsqu'on a été... Notre génération est sortie en 2013... parce que la génération de nos oncles sont sortis en 1995. Lorsque nous sortons en 2013, les plus âgés avaient 23 ans. Et les moins âgés étaient ceux nés dans l'intervalle 80-98. En ce moment, lorsqu'on sortait déjà, ils avaient presque 15 ans. Vous voyez l'écart qui est entre ces éléments. Et les générations sortent dans le système abri chaque 18 ans. Chaque 18 ans, une nouvelle génération est exposée. C'est-à-dire, vient marquer sa sortie officielle. Cette sortie officielle marque déjà son initiation. L'initiation au maniement et à l'art de la guerre. Et aussi l'initiation à la gestion du pouvoir. L'initiation aussi à la prise de parole en assemblée. Et c'est toute une formation que suit cette catégorie de personnes jusqu'à ce qu'elles sortent. Et quand elles sortent, le pouvoir d'une génération dure en pays Abouré 20 ans. Et à Bonnois, par exemple, le village est scindé en trois zones. Benyeri, Koumansi et Brounouklou. Ce qui fait qu'à Bonnois, au lieu de 18 ans, on peut avoir des sorties de génération chaque 5 ans. Puisqu'il y a un nombre pléthorique d'individus. Donc il faut rapidement faire sortir ces personnes. Et comme c'est trois quartiers, donc le premier quartier qui est Koumansi le plus ancien, fait sortir ces éléments 5 ans après. Le deuxième quartier qui est Benyeri et 5 ans après, le troisième quartier qui est Brounouko. Mais ces éléments vont tous former une même génération. Et leur pouvoir, ils vont les essayer pendant presque 20 ans. 20 ans, c'est le temps maximal pour le pouvoir. Mais il peut arriver que dans l'intervalle, la génération qui gère le pouvoir se trouve en infériorité numérique. Donc il n'y a plus d'individus capables de gérer. En ce moment, même si son temps de règne, son temps de gouvernance n'est pas terminé, elle cède le pouvoir à la génération suivante. Et le système est fait de telle sorte que lorsque une génération dirige, les lois, tous les éléments de loi qu'elle va prendre, elle se réfère aussi à la génération suivante. C'est-à-dire pour l'informer de la démarche à suivre, pour que ceux-ci donnent leur opinion, puisqu'ils ont atteint déjà l'âge de pouvoir gérer une communauté. Donc, ils donnent leur opinion sur la loi. Même si leur opinion n'est pas forcément obligatoire, mais elle est consultative, mais elle permet quand même à la génération dirigeante de sonder l'opinion publique de la communauté pour voir si la loi qu'elle va prendre aura l'assentiment de la communauté. Si elle sait qu'il y a une réticence, elle revient et retravaille sur la loi et bien prend en compte les remarques effectuées par la génération suivante, par les notables, par le groupement des femmes et par le roi pour pouvoir améliorer les éléments afin de porter cela à la connaissance de la communauté. Et comme on le dit, la génération, l'élément populaire qu'on voit le plus, c'est lorsque les classes d'âge sortent, ce qu'on appelle la fête des générations, c'est la sortie officielle. C'est le summum, c'est le dernier élément de l'apprentissage. Parce que cet élément officiel montre à la communauté que vos fils qui ont été formés sont maintenant aptes à pouvoir un jour diriger la communauté. Mais comme pour l'instant ce n'est pas leur temps de règne, ils vont aider les autres à diriger jusqu'à ce qu'ils atteignent le temps requis pour pouvoir diriger la communauté.
Alors, je crois que si on doit faire tout le tour de la fête des générations, ça prendra beaucoup de temps. Peut-être qu'on va se retrouver encore pour parler davantage de la fête des générations. C'est ça qui permet au peuple abouré de Bonnois et des autres abourés des environs de dire que ce monsieur, il est maintenant capable de prendre la parole en public. Voilà. Alors, le dernier point qu'on devrait aborder, c'est ce personnage qui est mort loin de la Côte d'Ivoire au Gabon.
Kwadio Amangwa
est mort au Gabon. Peut-on considérer Kwadio Amangwa comme un révolutionnaire ou un résistant?
Avant de répondre à cette question, je vais faire un petit retour en arrière pour montrer un peu l'importance des classes d'âge. Les Abourés estiment que tout individu de la communauté qui n'appartient pas à une classe d'âge est considéré comme un étranger à la communauté. Donc, revenons maintenant à la question de Kwadio Amangwa, on peut dire que c'est un résistant. Lorsqu'on prend les notes de l'administration coloniale, le colon le qualifie plus de voyou, de brigand. Mais en fait, Kwadio Amangwa était un chef guerrier et en même temps un grand commerçant. Il était agriculteur, il avait des grandes plantations et en même temps il exerçait le commerce. Et son commerce, il le faisait dans la zone de la Caplesse, c'est-à-dire un village qui est disparu malheureusement. Les Français ont voulu utiliser pour concurrencer Grand Bassam. Mais comme il y a eu la guerre entre eux et les Abourés en 1894, ils ont préféré détruire carrément ce village. Donc ils ont détruit, ils ont bombardé le village, détruit carrément le village. Donc les Abourés aussi ont abandonné ce village pour se replier. Tous ceux qui habitaient le littoral sont repliés sur Bonnois. Donc la zone de la Caplesse servait de zone d'écoulement des produits de Amangwa. Or, en tant que négociant, il ne voulait pas de la concurrence française dans sa zone. Il se voulait être l'intermédiaire entre les négociants français et le reste de la population, c'est-à-dire soit la population Atié et les Anis de Béti. Parce que c'est dans cette zone qu'il partait écouler plus ses produits parce qu'il était l'ami personnel du roi Kwame Bénié de Béti. Donc, ce monopole qu'il voulait asseoir dans la zone ne plaisait pas aux Français. Donc, il faisait tout, Kadjo Mangwa faisait tout pour ne pas que les Français pénètrent le pays Abouré. Parce qu'il estimait que, un, s'il pénètre le pays Abouré, lui, il perd son pouvoir économique. De deux, il a vu, en fait, le mal venir de loin. Il s'est dit quoi? S'il laisse les Français rentrer, les Français voudront un bon jour dominer les Abourés. Donc, il fallait bloquer ceci au niveau du littoral. Et les Français ont utilisé un élément déclencheur. C'est-à-dire, il y a eu un pillage des produits d'un négociant aux alentours du village de Yaou. Lorsqu'on dépasse juste un peu le village de Yaou, il y a le village d'Impérié. Dans la zone, il y a eu un pillage des marchandises d'un négociant français. Et les Français ont conclu automatiquement que ce sont les hommes de Kadja Mangwa qui ont fait cette opération. Et entre-temps, il y avait une rivalité aussi entre les Abourés et puis les Agni. Parce que pour les Français, le roi, c'était le roi Agni qui contrôlait toute la zone du sud-ouest. Alors qu'ils avaient omis déjà que les Abourés étaient les maîtres de leur zone. Donc pour eux, les Abourés dépendaient du roi de Sanvi. Ce qui n'était pas le cas. Donc ils ont demandé des comptes au roi de Sanvi. Il a dit non, que moi-même j'ai en maille avec Kadjo Mangwa. Parce qu'il me crée des soucis avec mes hommes. Puisque Kadja Mongo aussi, il rentrait dans la zone, on a fait, il y avait une zone de délimitation entre les Abourés, une zone qu'on appelait une zone de No Man's Land, après sa mort. Parce qu'il y a eu des guerres entre les Abourés et puis les Agni. Donc cette zone, après sa mort, est devenue une zone de No Man's Land. Donc il y avait des chasses, la chasse avait lieu dans cette zone. Et plusieurs fois, il y avait des incidents entre les Abourés et puis les Agni. Donc pour les Agni, c'était toujours les hommes du guerrier à Mangwa qui leur posaient ce problème. Donc les Français, lorsqu'il y a eu pillage, ils ont demandé des comptes au roi de Bounois pour qu'il dédommage le négociant en fait. Mais il y a eu un refus. Donc pour pouvoir dominer la zone, ils vont dire bon, si c'est comme ça, nous on va instaurer un blocus. Nous instaurer d'abord un blocus. Et quelques temps après, il y a eu des échauffourées entre les Agni et les Abourés. Donc le commandant de fort, en son temps, je ne me trompe pas, c'est le commandant Camille, demande aux deux parties de venir le retrouver à Bassam pour le règlement de conflit. Et les hommes de Kadja Mangwa sont partis les premiers. J'ai entendu les Agnis, enfin, à un moment, entre-temps, les Agnis étaient en retard. Donc, ils ont décidé, bon, comme les Agnis ne viennent pas, eux, ils vont partir. Donc, une bonne partie prend les pirogues pour venir vers Bonnois et une partie prend la côtière, puisqu'il y avait le village d'Akaplesse. Et en cette zone, ils tombent sur les troupes Agnis qui venaient. Il y a eu des échauffourées et il y a eu un coup de feu qui est parti. Donc là, les deux groupes se sont échangés des coups de feu. Il y a eu des massacres. Il y a eu les Abourés, comme les Abourés étaient en nombre assez suffisant, il y a eu des massacres, des troupes Agni. Et le commandant a pu maintenant appuyer sur cet élément bien précis pour pouvoir enclencher une guerre. Parce qu'il estime que lui, il décide de régler le conflit et les gens ne respectent pas son autorité. Donc comme ce sont les gens de Mangwa qui ne veulent pas respecter son autorité, donc il fallait soumettre les Abourés. Donc, les Abourés le considèrent comme un résistant. Ouais. Parce que c'est lui qui va mener les troupes Abourés en tant que chef guerrier. Il mène les troupes Abourés à la résistance. Ouais. Puisque les Français vont attaquer en octobre 1894. Les premières attaques ont été un échec cuisant pour les Français. Ils ont dû se replier sur Impérié. Ils ont perdu assez d'hommes. Presque pas moins d'une dizaine de personnes sont mortes. Au total, quand on prend les morts plus les blessés, on se retrouve à presque 75 personnes. Puisque Amongo a fait ériger en fait, des éléments comme une fortification qui leur permettait de résister aux petits ennemis, mais de leur position, ils voyaient l'ennemi. Donc, ils pouvaient facilement combattre l'ennemi. Et les Français ont dû se replier. Donc, il a fallu attendre le commandant Pinault, qui avait pour ordre d'aller rejoindre la colonne de Kong pour pouvoir mener un combat dans le Vébaoulé. Il a dû se retourner avec les éléments de l'artillerie, c'est-à-dire les canons, pour venir dans la zone. Et la nouvelle attaque, lorsqu'ils sont revenus, le commandant a maintenant amené, il a pris trois éléments tactiques. Il dit, bon, on prend d'abord par la zone maritime, on détruit leur village. Ça leur coupe déjà une base. Deuxième point, on les contourne par Kojoboui. Et troisième élément, l'attaque frontale. Mais il se rend compte que lorsqu'il mène l'attaque frontale, le village est déserté. Et lui-même va conclure dans son rapport que effectivement ils avaient les canons. Mais de la manière la fortification était faite, si les Aboureux résistaient, ils allaient encore perdre plus d'hommes. Mais les Aboureux ont préféré se retirer dans les zones forestières. Donc là, ça permet aux Français maintenant de mener leur campagne de répression. Donc après le conflit, il y a eu plusieurs décès, plusieurs morts. Et les Français ont pu mettre la main sur Amangouan. Il a été trahi par l'un des leurs, qui a montré sa zone de cachette que l'on prit. Et selon la tradition véhiculée par les Aboureux, il serait parti. C'est-à-dire qu'on l'avait convoyé au Gabon une première fois. Mais il y avait eu un bateau qui revenait sur la zone côtière ivoirienne. Et Amangouan s'est réfugié dans une des caves à vin pour se retrouver, dans le tonneau à vin pour se retrouver encore en Côte d'Ivoire. Et c'est un deuxième élément, c'est-à-dire une deuxième opération qui a permis de remettre la main sur lui et de partir avec lui. Mais pour pouvoir décapiter toute idée de résistance, Amangouan n'est pas parti seul, n'a pas été déporté seul, a été déporté avec le roi de Bounoua et le roi d'Adiaou, Ouchoumoukakou d'Adiaou. Donc, le seul survivant, celui qui revient de cette opération, c'est le roi de Bounoua, Ewinobu, qui arrive, qui revient de la prison gabonaise. Les deux autres sont décédés. Le roi Ouchoumoukakou d'Adiaou et puis Amangouan sont décédés. Mais les parents d'Amangouan faisant mains et pieds pour envoyer ses restes à Bounoua. Maintenant, les restes du roi d'Adiaou Ouchoumoukakou sont toujours au Gabon. Donc, quand on voit au niveau de l'histoire, on voit que des deux côtés, lorsqu'on se place du côté de l'administration coloniale, c'est-à-dire des Français, Kadja Amangouan est un brigand. Mais lorsqu'on se place du côté de la population abourée, Kadja Amangouan est considéré comme un héros de guerre, un résistant. Voilà un peu le contraste de la personnalité. Mais on résume la personnalité en deux éléments. Il est à la fois un guerrier et un grand négociant économique, un grand opérateur économique dans la région.
Merci, docteur Aïmou Ferdinand. À très vite. Merci.
Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Kofi Ebois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde.